philosophie première par Marie-Dominique Philippe le 6 mai 1998 à Saint-Jodard.
Le fait même confondre l'acte, l'être en acte et laisser, c'est le premier positivisme de la métaphysique. On confond le principe, ce qui est premier, et manière dont ce premier de fait se réalise. Il se réalise dans l'essai. Ça a l'air de rien, mais c'est la confusion c'est l'acte d'être. C'est très juste. Laisser, c'est l'acte d'être. Ça te mal dit. Esse actus essendi. Précisez l'acte, vous précisez laisser par l'acte, et vous précisez que c'est l'acte essendi de ce qui est capable d'exister. Qu'est-ce qui est capable d'exister? C'est en premier lieu ce qui est substantiel, c'est le propre de la substance. Quand vous dites que l'âme est substance, c'est qu'elle est capable d'exister par elle-même. Mais elle ne reçoit pas l'essai. Elle est capable d'essayer par elle-même. Donc, vous voyez bien que quand saint Thomas dit que l'essai, c'est actus essendi, saint Thomas montre que l'acte, pour nous, plus intelligible que l'essai. Puisque je précise que l'essai, c'est l'acte essendi. Autrement, si l'essai, si l'acte n'était pas plus intelligible que l'essai, on ne pourrait pas dire que l'essai, c'est l'acte d'être. Donc ça, c'est important de voir que dans la scolastique, on a confondu le point de vue du tiesti, l'acte d'être, et son premier poyonti, l'essai. Ça n'a l'air de rien, mais c'est capital. Parce que c'est sans doute, alors je dis sans doute là, une piste à rechercher. Qui serait intéressante à rechercher. J'aime de mettre ça pour que vous ne restez pas dans ce que je dis comme des conclusions. Ce sont des pistes de recherche. Vous savez que, de fait, sitôt saint Thomas, dont Scott a dit que la causalité finale était une causalité métaphorique. C'est très grave de dire que la causalité finale est une causalité métaphorique. Ça veut dire qu'elle n'est pas une vraie causalité, qu'elle est une causalité pour nous. La métaphore, c'est nous qui l'inventons. Le poète sait très bien qu'il invente les métaphores. Quand le poète invente-t-il des métaphores? Il invente des métaphores quand il ne peut pas exprimer directement la chose. Alors, il l'exprime par une conséquence, par un effet. Mais l'effet, quand il remplace la cause, fait une métaphore. L'effet que je vois, que je peux toucher, remplace la réalité que je ne peux pas saisir directement. Je la saisis par la métaphore. C'est le halo Bon Scott dit que la causalité finale est une causalité métaphorique. Il dit, je ne peux pas saisir la causalité finale en elle-même. Je la saisis par son effet. C'est vrai. Au niveau de notre manière de connaître. Mais quand il y a une induction, je dépasse l'effet pour saisir le principe. Et donc, dire que la causalité finale est métaphorique, c'est rester en deçà de l'induction et demeurer dans la description. Et ceci, c'est très important pour nous. Parce que il y a eu toute une thèse qui a été faite là-dessus, qui montre qu'un disciple de Don Scott a été considéré comme un disciple de Thomas d'Aquin très peu de temps après la mort de Thomas d'Aquin et qui affirme que la causalité finale et métaphorique. D'où des très grands scolastiques comme Jean de Saint-Thomas. Jean de Saint-Thomas était un franc-comtois dominicain. Un franc-comtois. Quand elle appartenait à l'Espagne, tous les francs-comtois savent qu'ils ont un lien avec l'Espagne. Jean Saint-Thomas, qui est peut-être dans la scolastique le meilleur des thomistes, au dire du père de Haut, mais c'est pour ça qu'il m'a fourré dans Jean Saint-Thomas, et qu'il a demandé même à Solem de rééditer Jean Saint-Thomas. Et Solem a obéi. Tant que le père de Haut vivait. Puis il a arrêté, ça coûtait trop cher. Et ça ne se vendait pas assez, je comprends. Réédité tout Jean de Saint-Thomas, c'est quelque chose d'énorme. Mais les premiers volumes de Jean de Saint-Thomas ont été réédités par Solem. Vous les avez à la bibliothèque. Vous jurez si ce que je dis est vrai. Et puis la vieille collection de Jean de Saint-Thomas, Vives, qui est pleine de fautes. Mais c'est intéressant de voir que Jean de Saint-Thomas dit ouvertement causalité finale. C'est une causalité métaphorique. Alors que Thomas d'Aquin dit, à la suite d'Aristote, que la causalité finale est la cause des causes. Et vous comprenez pourquoi. La causalité efficiente, c'est celle qui me permet d'agir. Si vous êtes ici, vous avez obéi à la cloche. Et moi aussi. Nous avons obéi différemment. Mais nous avons obéi pourquoi ? À cause de la finalité, l'obéissance est liée à la fin. Donc, la causalité efficiente s'exerce grâce à la finalité. Quand vous dressez un chien, vous savez très bien que quand il est de mauvaise humeur, il n'écoute plus rien, vous sortez un sucre. Et vous les présentez, il redevient de bonne humeur. Le sucre est pour lui causalité finale. C'est la petite jouissance de chien. Et alors à partir de là, il obéit. Il y en a qui restent les chiens du Seigneur. Dominicanes, les chiens du Seigneur. donne une petite joie intérieure. Et ils obéissent merveilleusement. Toute l'œuvre du Père Maître, c'est de passer du sucre à la bonté divine. De ne pas s'arrêter au sucre. Parce que ça, il n'y a pas besoin de noviciat. L'instinct suffit. Oui, c'est très important ça. Parce que c'est le passage de la causalité efficiente à la causalité finale. La grande éducation du Père Maître, c'est le passage de la causalité efficiente à la causalité finale. Et si on avait un thermomètre mystique, on prendrait la température du premier jour du noviciat et on verrait que la causalité efficiente s'arrête au morceau de sucre. Au bout d'un an de noviciat, on s'apercevrait que la causalité finale, ah, c'est la première qui enveloppe la causalité efficiente. On est passé du morceau de sucre à la bonté du Christ crucifié qui nous révèle la bonté du Père. Oui, je vous dis ça parce que c'est capital dans notre vie, ça. Et c'est ce qui nous distingue de tous ceux aujourd'hui qui mettent le primat sur la causalité efficiente. C'est capital. Vient de paraître un livre d'un juif, je crois qu'il est pratiquant, sur l'économie shabbatique et l'économie moderne. L'économie dictée par Dieu à Moïse, avec le Shabbat. On travaille pour plaire à Dieu. On travaille pour la purification de notre volonté et de notre capacité d'aimer. Et le Shabbat permet d'aimer par l'adoration. Et la loi du Shabbat regarde l'homme. Elle est doublée par les jubilés. Et elle s'étend jusqu'à la terre, la cause matérielle. Ceci parce que tout est commandé par la finalité, l'adoration. C'est curieux, ça. L'économie shabbatique, l'économie moderne, gagner de l'argent, l'efficacité. Et on est en train de détruire l'homme. C'est intéressant de voir qu'un frère aîné sonne le glas. Et le glas, c'est que la causalité efficiente est passée avant la causalité finale. C'est peut-être par là qu'on peut donner la main à notre frère aîné. Parce que ce qui est vrai pour le frère aîné, économiste, croyant, et le catholique qui fait l'économie du monde d'aujourd'hui, la cause. humain. C'est le devenir de l'homme. L'homme ne peut pas créer, mais à la suite du Créateur, il travaille. C'est l'analogue de la création. Il ne faut jamais l'oublier. La création se fait in instanti. Le travail se fait dans le temps. C'est le devenir humain, le travail, que l'homme réalise. Dieu, dans sa sagesse, n'a pas voulu créer un monde parfait pour laisser la place au petit Benjamin. Il n'a pas fait ça pour les anges. Les anges sont des contemplatifs qui ne savent pas ce que c'est que le travail. Votre ange gardien, il vous surveille. Est-ce que surveiller, c'est un travail? Posez-vous la question. Voyez, celui qui conduit un TGV, c'est difficile aujourd'hui d'aller auprès de lui. Mais au début, c'était possible. Et je l'ai fait exprès. Les premiers TGV, j'ai demandé si je pouvais aller tout près du conducteur pour voir ce qu'il faisait avec la vitesse à laquelle on va. Et le seul conducteur, pour être sûr qu'il ne s'endorme pas, il doit répondre tout le temps à un petit instrument qui montre s'il est réveillé ou pas. C'est extraordinaire, ça. Il surveille. Allez, il est vigilant. Dieu est le gardien. Lui ne dort pas. Il n'y a pas besoin d'un super surveillant. Dit que l'homme, dans la causalité efficiente, a besoin d'un super surveillant qui maintient son intention. Il sait sa responsabilité. C'est ce qu'il me disait. La responsabilité grandit en raison de la vitesse. Plus la vitesse est grande, plus la responsabilité est grande, parce que plus nécessairement le moindre moment de sommeil. Et s'il y avait un super surveillant, c'est l'ange gardien. Quand vous faites oraison, puis tout d'un coup vous dormez, le ciel n'est pas détruit. Et la communauté continue de vivre. Tandis que ce conducteur du TGV, quand le train est lancé à cette super vitesse catastrophique, et dès que le conducteur ne répond pas, il y a un signal. C'est très curieux tout ça, mais c'est très intéressant pour voir les liens entre la causalité efficiente et la causalité finale. On essaie de réparer le primat de la causalité finale. Parce que le primat de la causalité finale, ce serait que la conscience du devoir me tient éveillé. Conscience du devoir me tient éveillé. Mais quand la conscience du devoir ne me tient plus éveillé, parce qu'il y a un manque d'amour, parce que la causalité finale n'est plus en acte, alors je répète, je multiplie les avertissements. C'est très très vieux, ça. Quand vous visitez une chartreuse, il y a une chartreuse qu'on peut visiter, c'est une fausse chartreuse. Qui n'a jamais été une chartreuse, mais qui a été construite pour causalité exemplaire, pas causalité finale, causalité exemplaire, montrer ce que... Alors qu'est-ce qu'on voit ? On vous montre le lit d'un chartreux. Et puis, ce chartreux avait beaucoup de peine à s'éveiller. Alors il avait inventé un système pour que, quand le réveil sonne, quand c'est l'heure, il tombe sur les pieds une grosse bûche de bois. Qu'il réveille. Et quand il le sait d'avance, ah, il tire ses pieds avant. Vous voyez, la causalité finale, réveiller l'intention. Alors que, facilement, causalité finale, oh métaphorique, je dois me lever, oui, mais je suis très fatigué. Je dois me lever, oh, c'est métaphorique, pour le paresseux. Alors, je fais un super réveil qui est efficace. Alors, je me rappelle, quand on voyait ça, il y a eu la question de quelqu'un qui n'était pas croyant. Il dit, mais quand on est très grand et qu'on se fait chartreux, c'est en effet quelqu'un de très grand, le lit est trop petit. Puisque c'est le lit du chartreux, il est toujours à la même taille. Alors le guide qui était un chartreux, c'était pas un guide, c'était un gardien, répond du même ton. Ah, quand il a les pieds trop grands et qu'il dépasse le lit, on lui coupe les pieds. Métaphoriquement. C'est de la métaphore, plus exactement, on passait de la métaphore à l'efficacité. Vous voyez, il y a là un problème philosophique qui, pour nous, est absolument capital. Autrement, on retombe dans la scolastique. raison. Il applique la réalité. Mais il ne saisit pas la réalité dans son mode d'exister. Il saisit la réalité en elle-même. Au niveau de l'être. Oui, c'est pour ça que c'est faux de dire que la métaphysique d'Aristote est existentielle. Ou que la métaphysique de Thomas d'Aquin est existentielle. Elle est au niveau de l'être. Donc, l'être en acte. Ça, c'est la fin. C'est le principe selon la fin. C'est... selon la fin. Mais c'est le principe arché. C'est même la cause selon la fin. Alors, vous voyez que quand on saisit l'essai comme le premier poyonti, je saisis tout de suite ce qui est en puissance. C'est-à-dire ce qui est capable d'exister, c'est l'essence. Donc, vous voyez que l'essence est saisie au niveau métaphysique comme ce qui est capable d'exister, ce qui est capable d'être en acte. C'est l'essence. Avicenne a voulu saisir l'essence pour elle-même et non plus relative à l'acte. Saisir l'essence pour elle-même, c'est métaphysiquement impossible. Puisque l'essence est toute relative à l'acte. Si l'essence est toute relative à l'acte, ça veut dire qu'elle n'est intelligible que dans sa relation à l'acte. C'est l'acte qui la rend intelligible. L'essence en elle-même est relative à l'acte. L'essence, regardée en elle-même, comme ce qui est intelligible en premier, c'est Dieu. L'ipsum esse subsistens. Mais quand Thomas d'Aquin essaie de préciser qui, comment nous pouvons parler de Dieu au plan métaphysique, on dit l'ipsum esse subsistens, donc l'être premier. Dieu. Laisser lui-même subsistant. C'est bien l'essence considérée en elle-même. Ipsum esse subsistens. Laisser subsistant. Si, c'est ça qu'il faut dire, si je considère l'essence en elle-même, considérant que l'essence en elle-même est intelligible, ce n'est vrai que pour Dieu. Puisque en Dieu, il n'y a pas de potentialité. Or, l'essence en acte, c'est l'essai. C'est donc bien. regardant l'essence de Dieu, en regardant l'essence de l'homme, je saisis l'idée de Dieu sur l'homme. Or, l'idée de Dieu sur l'homme, c'est bien Dieu lui-même. Je confonds l'essence de l'homme et Dieu. Métaxu, je confonds l'essence de l'homme avec l'idée que Dieu a de l'homme. Et l'idée que Dieu a de l'homme, c'est Dieu lui-même. Je télescope donc deux métaxu, l'essence de l'homme en Dieu. C'est son idée. Et l'idée en Dieu, c'est Dieu. Et c'est ça, je crois, qui est important pour nous, de voir à quel niveau les confusions, les manques de distinction aboutissent à des erreurs qu'on voit constamment aujourd'hui. Voilà, je voulais vous rappeler ça. C'est un auto bene. Si je confonds le tiesti et le poionti au niveau du premier poionti, si je confonds l'être en acte et l'essai, j'aboutis nécessairement à l'erreur de l'ontologisme. L'ontologisme le plus farouche, c'est Malebranche. Malebranche qui suit Descartes. Cette erreur-là. Alors, second poionti. Quel est l'acte de l'esprit, de mon intelligence? Quel est le second? C'est la vérité. Mon intelligence est en acte. Elle est en acte lorsqu'elle atteint la vérité. Alors voyez, comme c'est intéressant de comparer l'essai l'acte de l'esprit, l'acte de l'intelligence, de mon intelligence. Mon intelligence est parfaite quand elle est dans la vérité. Vous en avez l'expérience, ça. Tant que vous ne découvrez pas la vérité, vous êtes en recherche. On peut dire que en première année, on est en recherche toute l'année au niveau métaphysique. Et c'est très fatigant d'être en recherche. On est in via. Et à la fin de la journée, on a envie de la multiplication des pains. Parce que c'est très fatigant. C'est le travail, l'intelligence. vrai. Je suis toujours en recherche. Je découvre, au point de vue métaphysique, certaines précisions au bout de... Arrête de dire qu'on entre en métaphysique à 45 ans. Non, vous avez le temps. Il y a 45 ans, vous continuez tout le temps que Dieu permet. Parce que mon intelligence n'est pas dans le temps. Elle est au-dessus du temps, mon intelligence. Elle est dans le temps par la recherche, par le devenir, par le travail. La recherche, c'est le travail de l'intelligence. C'est le devenir de l'intelligence. Je cherche la vérité. Quand j'atteins la vérité, ah, j'ai un bon fauteuil pour me reposer. Mais c'est dangereux, parce qu'il faut continuer le lendemain. Dès que vous trouvez un tout petit peu la vérité, il y a un repos. La qualité propre, la vérité et la perfection de mon intelligence, de la perfection de mon acte, de mon opération intellectuelle. La vérité, c'est la perfection de mon opération intellectuelle. Vous voyez, quand vous discutez avec quelqu'un et que ce quelqu'un comprend difficilement, qu'est-ce que vous dites au bout d'un certain temps ? Je vous affirme, je vous dis la vérité. Vous dites, je cherche avec vous la vérité. Et quand j'ai découvert la vérité, je découvre les confusions. Ce n'est que dans la vérité que je découvre les confusions, les manques de distinction. C'est pour ça que l'intelligence discerne. Juger, c'est discerner, c'est distinguer ce qui est en acte de ce qui est en puissance. Et ne pas considérer que ce qui est en puissance est en acte. Alors, qu'est-ce que c'est que la vérité ? La perfection de mon acte d'intelligence. Regardez dans le De Veritate, question 1, article 1, le De Veritate de Thomas d'Aquin. C'est un article dont on a donné la traduction pour tous ceux qui connaissent moins bien le latin. Vous devez l'avoir, ça. Ça fait partie des documentations que vous devez avoir. Et si vous ne l'avez pas, je fais appel à quelqu'un parmi vous, aussi bien les sœurs que les frères. Une traduction de l'article 1 du De Veritate. Il faut avoir lu ça. Où saint Thomas pose la question, qu'est-ce que c'est que la vérité ? Alors, la fameuse réponse de Thomas, adéquatio intellectus ad rem. La vérité, l'adéquation de l'intelligence à la réalité, adéquatio. C'est-à-dire que ce que je connais est conforme à la réalité. Je vous ai déjà dit, petite expérience à Fribourg, Boeuf Méry, qui a été directeur du journal Le Monde pendant longtemps. depuis le journal Le Monde. Pauvry vient à Fribourg pour faire une conférence sur la vérité. Et vous comprenez que je me suis posté en première ligne, juste en face de lui. Ça m'intéressait de voir comment Pauvry. Alors il a commencé par dire qu'il était impressionné de parler à Fribourg, ce lieu où il y avait une philosophie selon Thomas d'Aquin. Alors il dit, je ne vais pas vous dire ce que Thomas d'Aquin dit sur la vérité, mais ce que un journaliste d'un grand journal peut dire sur la vérité. C'était palpitant, ça. La confession d'un journaliste par rapport à la vérité. Le journaliste est envoyé par son directeur pour constater tel événement. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de manifestations. Il y en avait quand même de temps en temps, pour constater qu'est-ce qui se passe. Prenez les journées que beaucoup d'entre vous ont connues. Quand le pape est venu à Paris pour parler aux jeunes, c'était vu de l'extérieur. Le journal Le Monde, une manifestation catholique avec le pape, général en chef, tous les galons, parlant à la jeunesse. Alors il a dit la vérité pour un journaliste. Il s'est fait avant d'aller comme journaliste à cette manifestation. Il s'est fait une idée de cette manifestation. Et la vérité, c'est que la manifestation était conforme à son idée. C'est extraordinaire d'entendre ça. Quand Thomas d'Aquin dit que la vérité, c'est que l'intelligence soit conforme à la réalité. Ça se retient, n'est-ce pas ? L'inversion. Ce que Gilson, historien du Moyen-Âge, dit pour Thomas d'Aquin, la vérité, c'est que notre pensée soit conforme à la réalité. Aujourd'hui, la vérité, c'est que soit conforme à notre idée. Donc vous voyez, ce qui est intéressant dans ce problème de la vérité, c'est que on voit, dès qu'on analyse la connaissance, l'aspect objectif de la connaissance et l'aspect subjectif de la connaissance. La connaissance intellectuelle et mon acte intellectuel. Et cette connaissance a une détermination. C'est sûr. Elle est déterminée. Est-ce que le sujet reçoit la détermination? Ou est-ce que le sujet impose sa détermination? Quelle est la vérité de l'artiste quant à son œuvre ? Quelle est la vérité ?